Est-ce qu'on aura des trucs à raconter plus tard? Et si on avait déjà des trucs à raconter maintenant, ce serait déjà pas mal. Et on est dans une émission un peu spéciale qui va s'appeler Micro Libre Parole Jeunesse. Et ce sera donc ce nouveau rendez-vous de la journée radio du Carrefour des Engagés. Alors normalement, nous devions recevoir dans ce créneau horaire Sarah Elaïri, secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement. Elle nous avait fait part dès janvier de sa présence, mais la vie gouvernementale assez contrainte et une séance de travail interministérielle l'a finalement retenue. Indisponible pour notre émission. C'est pas grave, hein, elle nous a communiqué d'ailleurs ses regrets de devoir annuler sa participation. Pas de problème, nous comprenons, et la rédaction de Jeunes qui devait l'interroger comprend aussi. Mais évidemment, on est en radio et comme la nature a horreur du vide, la radio a aussi horreur du vide et en l'occurrence, on a décidé d'inverser les rôles. C'est-à-dire qu'au lieu que les jeunes posent des questions sur ce qui les préoccupe pour avoir des réponses, eh ben, ils vont pouvoir s'exprimer librement sur ce qui les préoccupe et peut-être sur des solutions qu'ils aimeraient suggérer. Tiens, si un jour on faisait une émission avec plein de solutions au lieu de plein de questions, ça changerait un petit peu dans les médias. C'est à mi-chemin entre le concept de l'émission micro-libre que vous connaissez bien sûr, amis de fréquence sciée. Rappelez-vous, dans une vie avant Covid, ah oui, on a l'impression que c'est loin, où on pouvait réunir en direct dans des lieux publics, et c'est comme ça qu'on dira pour les bistrots, hein, voilà, on va les appeler comme ça, des lieux publics, des gens, pour qu'ils viennent parler de choses diverses comme la vie d'artiste à la campagne ou bien de la précarité, de la misère, pour rappeler la dernière émission qui avait été réalisée. Et à mi-chemin, donc, de ce que nous avions pu faire lors du grand débat au printemps 2019. Ça paraît déjà si loin, tout ça. Avec nous, autour de la table du studio, masque sur le visage, c'est exprès, c'est pour qu'on puisse pas les reconnaître, hein, à la radio. Oui, je sais, c'est idiot ce que je viens de dire. J'assume, effectivement. Donc, avec le masque. Alors ça, c'est pour expliquer qu'il va y avoir un petit côté chewing-gum dans la façon dont on va s'exprimer. Hein, ce ne sera pas forcément toujours la voix la plus claire, hein, qu'on pourra avoir. Voilà, on a le masque et on a autour de la table, eh bien, beaucoup de monde avec les distanciations qui s'imposent. Nous avons Tom, Louise, Léo, Valentin, Chloé, Pauline, Kadira, Nicolas, Orlando au téléphone. Orlando ? Alors, Orlando est avec nous ? Non, pas encore ? Ah, voilà, on va le rechercher, Orlando. Ouais, ouais, c'est le téléphone. Il est tombé dans la baignoire juste à côté que nous avons dans la salle de bain du studio. Donc, on a le temps de le ressortir, de le faire sécher et ça va fonctionner. L'électronique n'aura pas été totalement détruite dans quelques instants. Donc, on va avoir Orlando au téléphone. Mais en attendant, eh bien, ce que je vais demander tout simplement, c'est à chacun de se présenter. Vous savez, l'animateur est toujours feignant et l'animateur, il se dit, tant qu'ils vont se présenter, pendant ce temps-là, je n'aurai pas à parler. Orlando est bien avec nous ?
Oui, je suis là.
Eh bien voilà, eh ben, Orlando, c'est le dernier qui est toujours le coupable. Orlando, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Je m'appelle Orlando Vincent, j'ai 22 ans et je suis actuellement en service civique à la radio RTF Start au Mans depuis le 1er septembre.
Donc le monde de la radio ne vous est pas inconnu ?
Non.
Voilà, et vous allez pouvoir vous exprimer aussi par ce biais du téléphone avec Louise. Louise, alors, petite présentation, Louise.
Oui, bonjour. Bah, je m'appelle Louise, j'ai 17 ans, je suis lycéenne à La Flèche.
Et on continue le petit tour.
Moi, je m'appelle Léo, j'ai 18 ans et je suis dans le dispositif de la garantie jeune à la mission locale.
On a Valentin, que vous avez déjà largement entendu depuis ce matin. Merci Valentin.
Je t'en prie. Valentin, donc je suis en service civique à la radio Fréquencier.
Ensuite.
Donc, bonjour, donc, j'ai déjà parlé avant, mais bon, je vais me représenter. Je suis Chloé, j'ai 24 ans et je suis également volontaire en service civique pour une radio du Sud-Est de Sarthe qui s'appelle Contact FM.
Nos amis de Contact FM. Et puis
Nicolas, je suis également en service civique à la radio Fréquencier. Ah, ça sature un petit peu.
Ouais, non, c'est parfait. Et puis nous allons avoir aussi...
Bonjour, je suis Tom, je suis en service civique à la radio de Fréquencier.
Et tu as quel âge, Tom ?
17 ans.
Voilà, donc vous voyez, il y a un peu tous les âges. Et ?
Et moi, c'est Kadira Haroun, 28 ans, et je suis secrétaire au sein d'un syndicat et je me charge des services civiques des radios associatives.
Donc, des gens, des gens en service civique, elle en voit plein à travers la France. Alors, on avait prévu au départ donc, de poser un certain nombre de questions à Sarah Elaïri. Vite fait, oh Pauline.
On m'a pas présenté moi.
Oh, alors là, oh mon Dieu. Oh, je vais vivre l'enfer pendant plusieurs mois là. Pauline ne va jamais me pardonner.
Mais Pauline, pourquoi t'es-tu cachée derrière la table?
Ah ben je fais des stories aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis Instagrammeuse pour la radio.
Donc Pauline, oui.
Donc moi, Pauline, 22 ans, ancienne service civique à la radio et maintenant employée chez Fréquencier. Voilà.
Et voilà. On est toujours plus mal servi par les siens, c'est clair. Désolé, Pauline. Oui, si Sarah Hilary avait été là, qu'est-ce que vous auriez aimé lui poser comme question en formulant très, très, très vite par exemple, Chloé.
Moi, je voulais voir avec elle le traitement des médias par rapport aux jeunes, etc. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour elle, parler aux jeunes vis-à-vis des réseaux sociaux, etc. Oui.
On va demander aussi à Louise, justement, ce qu'elle aurait aimé lui poser comme question s'il avait eu la ministre de la Jeunesse à proximité d'elle.
Moi, ça aurait été la situation des jeunes, une fois qu'ils sortent du scolaire, comment ils peuvent... bien entrer dans la vie.
Nicolas, si toi t'as vu cette occasion,
bah ça aurait été reprendre un peu l'idée de Chloé, l'éducation par les médias, surtout pendant la période de confinement, où on s'est tous un petit peu devenus dépendants aux médias pour justement s'instruire sur ce qui se passe et sur notre futur.
Alors des questions, il y en aurait eu plein, donc on va sortir de cette logique où on pose des questions, on va rentrer dans une logique au contraire où on essaye de dire qui on est. Nous les jeunes, alors je m'exclus évidemment du groupe, et aujourd'hui, quelles sont les préoccupations? Et là, je vais vous laisser vous exprimer de façon assez libre. On a le sentiment actuellement avec la crise la crise Covid qu'un mot revient. On parle beaucoup d'une génération sacrifiée, hein, d'une génération qui va passer à côté de plein de choses. On sait qu'on a eu la génération de la guerre. Chez les hommes, il y a eu cette génération qui a dû partir aussi en Algérie à un moment, qui a été un peu frappée par cela. On a eu la génération Sida au début des années 80, où pareil, les jeunes ont été touchés dans les choses qu'ils souhaitaient pouvoir faire de façon libre. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes une génération sacrifiée? Qui veut intervenir là-dessus? Est-ce que ça... voilà. Alors, c'est Valentin qui y va en premier. Alors, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas d'accord avec Valentin, pour effectivement aller absolument contre ce qu'il dit. Au contraire, ça lui fera du bien.
oui, moi je trouve qu'on est effectivement une génération sacrifiée, dans le sens où cette crise sanitaire, la gravité de cette crise sanitaire est surtout principalement pour les personnes âgées, ou avec ce qu'on appelle d'ailleurs avec un terme un peu horrible, des comorbidités. Ce qui veut dire qu'en fait, nous, en tant que jeunes, à part des exceptions, on n'est pas les personnes à risque. Pour autant, c'est notre génération qui est impactée par toutes les mesures qui sont prises. C'est notre génération qui n'a pas de futur clairement, en tout cas, défini. On ne sait pas si à la fin de l'été, on pourra chercher du travail. On ne sait pas si à la fin de l'été, il faudra au contraire se reconfiner. On ne sait rien, en fait. Alors, comme tout le monde, on n'est pas les seules générations. Mais c'est vrai que c'est une génération où on est jeune, où on n'est pas directement concerné par la gravité sanitaire de la crise, mais on est les premiers à être impactés.
Alors, comment vous le ressentez, vous aussi, différemment ou pareil? Louise, oui.
C'est vrai, mais s'il n'y avait que le Covid, pour moi, ça irait. Je suis dans la première génération, la première année de la réforme du baccalauréat, et ça rajoute vraiment quelque chose en plus. Et même avant toute cette affaire du Covid, on l'avait. Et on pouvait déjà être une génération, on n'était pas une génération sacrifiée, mais une génération bêta-test. Et les professeurs étaient dans le flou total, rien que pour le bac en ce moment. Et les professeurs ont reçu il y a à peine une semaine des informations pour le bac. Même certains lycées n'ont rien du tout. Et en plus, comme là, on est en... une semaine, certains lycées, pas le nôtre vu que je suis en internat, ont été en présentiel et une autre à la maison. C'était très compliqué pour eux. Et même sans toute cette affaire du Covid, on était déjà des précurseurs de la génération sacrifiée.
Chloé souhaite apporter son point de vue sur la question, oui.
Oui, tout à fait. Donc pour rebondir à ce qu'a dit Valentin, moi je suis tout à fait d'accord parce que bon, bah, c'est pas mon cas parce que je suis en service civique et du coup on va dire que j'ai un travail, même si c'est pas le terme à utiliser. Mais oui, on est jeune, on a besoin de se construire, on a besoin d'avoir des contacts et pas dans le sens de cas contact, on a besoin de se construire en fait, tout simplement, de se faire des amis, de rencontrer du monde et on ne peut pas parce que cinéma, musée, théâtre, tout est fermé, on ne peut rien faire, on peut juste étudier, on peut juste travailler, encore si on a un travail, et on est sacrifié, oui tout à fait, je suis vraiment d'accord avec ce terme.
Alors on va poser la question au plus jeune du groupe, Tom, 17 ans. Tom, qu'est-ce qui te manque le plus à cause de cette crise Covid ?
Sortir sans un masque.
Sortir sans un masque,
ouais. Ah ouais, c'est ça qui me manque le plus.
Parce que c'est gênant ou c'est gênant dans la relation avec les autres ?
Bah à force, au tout début du confinement, c'était bien de prendre le masque parce que c'était pour des raisons de crise sanitaire. Mais après, on sait bien que c'est pour notre bien, mais ça devient lourd d'avoir cette sensation d'être étouffé avec un masque.
Oui, donc il faut vivre de façon un petit peu spéciale, un peu différente. Pauline va intervenir ?
Oui, personnellement, ce qui me manque aussi, c'est... Alors déjà, j'ai quitté la fac, donc j'ai plus beaucoup de liens sociaux avec mes amis. Mais du coup, c'est pareil, les seuls moments où on pouvait se retrouver, c'était en ville, dans les bars et les restaurants. Et là, c'est pareil, il n'y a plus rien en ce moment, donc c'est très compliqué aussi de se retrouver entre jeunes. Voilà.
Nicolas ?
Pour revenir aussi à ce qu'a dit Chloé, c'est que du coup, forcément, il n'y a plus de contact, littéralement, même si le mot a un autre sens maintenant. Et que, en fait, maintenant, on n'a plus de relations avec les autres générations, les autres milieux. Souvent, on est avec les gens de notre travail, juste notre petit cercle d'amis, mais souvent, c'est des gens de la même génération, et on n'a plus l'enseignement qu'on donnait les différences d'âge. Bon, c'est déjà un peu le cas avant le confinement, avant la crise sanitaire. Déjà, ça commençait à se disparaître, mais maintenant, on ressent ça beaucoup plus qu'avant.
Kadira voulait aussi apporter un complément, oui.
Oui, il faudrait...
On va bien rapprocher le micro, oui, parce qu'il faut expliquer aux auditeurs qu'on bouge les micros pour que tout le monde puisse les avoir, voilà.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que tout le monde a dit, et puis moi j'ajouterais juste un point, c'est que tous les projets qu'un jeune a entrepris, enfin voulait entreprendre dans l'année 2020 et 2021 tombent à l'eau, par exemple pour ceux qui voulaient faire des voyages dans d'autres pays, pour ceux qui voulaient créer d'entreprises, donc tout ça aussi, ça retarde et puis ce qui fait que la personne, elle a beaucoup du temps à perdre, elle a perdu beaucoup de temps et les jeunes, pour un jeune, ce serait après difficile de repasser à l'étape suivante.
Alors, il y a une question qui se pose, c'est aussi de savoir, vous représentez ici la jeunesse. Et moi, je m'interroge, est-ce que ça a un sens, le mot de dire la jeunesse de façon globale ? Est-ce que par hasard, il n'y aurait pas plutôt des jeunesses ? Léo, est-ce que tu crois, qu'est-ce que tu ressens que vous formez tous une communauté vraiment sous ce nom, la jeunesse, ou il faudrait peut-être faire un petit effort pour distinguer les différentes jeunesses aujourd'hui ?
Moi, je pense que si on différencie la jeunesse de l'âge adulte, c'est parce que quand on passe à l'âge adulte, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais on apprend peut-être moins, on traverse moins de passes différentes, alors que quand on est jeune, il y a le collège, le lycée, plein de rencontres, il y a la fac, il y a les découvertes de l'emploi, etc. Et du coup, forcément, quand on a entre 18 et 20 ans et entre 24 et 26 ans, on n'a pas du tout le même vécu, parce qu'on n'a pas fait autant de choses que 4 ans avant, quoi. Parce que du coup, notre vie est encore assez courte. Moi, par exemple, j'ai 18 ans. Je sais qu'il y a 2 ans, déjà, j'étais beaucoup moins mature. J'avais beaucoup moins de recul sur le monde. Et je pense que oui, on peut différencier les différents âges des jeunes.
Donc, les jeunesses, des différences par l'âge. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres différences ? Tout à l'heure, on évoquait avec la mission locale, la ruralité et puis les zones urbaines. Valentin, oui ?
Oui, il y a aussi d'autres différences qui sont plus sociologiques, plus sociales. Évidemment, on n'a pas la même égalité des chances. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec le député Damien Pichereau. Mais voilà, aujourd'hui, selon notre origine sociale, selon nos origines tout court, on n'a pas du tout les mêmes chances. Et rien que selon notre genre. C'est-à-dire qu'une femme n'a pas les mêmes chances d'emploi qu'un homme. C'est une vérité. Ça fait depuis la création de l'homme que ça existe, et depuis le début où ça fait des années et des années qu'on entend les politiques dire qu'ils vont agir, sur cette histoire d'égalité des chances et il n'y a pas d'action. Enfin bon, il y a des actionnettes, mais il n'y a pas d'action. Mmh. Et ça, par exemple, là pour le coup, c'est ça, dans le sens où il y a différentes jeunesses, c'est que on part pas tous avec les mêmes chances en étant pourtant jeunes, à 18 ans ou même avant. On sait très bien qu'un fils, par exemple, un fils d'ouvrier n'aura pas les mêmes chances qu'un fils de cadre. Et ça, c'est les chiffres, c'est comme ça.
Alors ça, on peut le confirmer, les chiffres le disent bien. Le système scolaire français et le système du classement PISA, qui est le moins capable de favoriser l'ascenseur, ce qu'on appelait l'ascenseur social, c'est-à-dire de pouvoir accéder à des fonctions très gratifiantes et importantes quand on est issu d'une famille populaire. Bon, est-ce que vous avez, vous quelque chose à ajouter en commentaire sur cette question, une jeunesse, des jeunesses, Pauline, oui ?
C'est-à-dire sans forcément même le côté populaire, ne serait-ce que le fait d'habiter à la campagne ou en ville, c'est déjà deux situations ultra différentes, ne serait-ce que même entre la campagne sartoise, donc là autour de Saint-Guillaume, et Le Mans, ce qui est pourtant pas Le Mans une grande métropole non plus, c'est une grande ville mais pas non plus comme Paris. Il y a déjà des grosses différences entre Le Mans et Sillé, donc j'imagine même pas entre les villes et tout ça, il y a beaucoup de jeunesse je pense.
Alors dans les lycées par exemple, je pense à Louise, la jeunesse et les jeunesses, ça se forme, ça se fait aussi sous la question du avec qui je suis ami, je suis copain, copine, des petits groupes qui se forment, les affinités. Aujourd'hui, qu'est-ce qui détermine finalement les affinités entre des jeunes, par exemple, dans un lycée ?
Moi, je dirais plutôt la personnalité de chacun, des personnes plus réservées ou au contraire des personnes plus extraverties. Justement, ils auront tendance à se mettre entre ces groupes. Donc, oui.
Non, mais continue, Louise.
Non,
oui.
C'est ça. Je pense que c'est en fonction de la personnalité des gens, de leur ouverture, s'ils ont plus ou moins envie de faire connaissance avec d'autres gens, ou s'ils sont plus gênés, justement.
Kadira.
Et moi, je voulais ajouter juste un point sur les étudiants qui viennent dans le cadre de leurs études des autres pays, par exemple de l'Afrique.
Alors,
ou,
tu connais
ou
cette
autre.
Situation très
oui.
bien.
Et
tu es djiboutienne, hein, voilà.
Je suis de nationalité djiboutienne, oui. Et quand on vient en France dans une situation pareille, c'est pas vraiment facile pour une personne de s'adapter ou de faire une intégration dans la France. Et donc, c'est beaucoup plus difficile pour la personne dans ces cadres-là.
Alors, vous vous doutez bien que si je vous ai lancé sur la question de la jeunesse et des jeunesses, c'est que je voudrais aussi vous lancer sur ce qui fait aujourd'hui l'actualité concernant les jeunes. C'est le phénomène des bandes, c'est le phénomène des violences, c'est le fait que pratiquement tous les jours, on a eu récemment des décès suite à des combats de bandes. J'aimerais avoir votre sentiment là-dessus, sur cette violence, pourquoi elle vient, comment vous la ressentez, qu'est-ce qu'on peut faire. J'aimerais qu'on en parle, que vous en parliez de la façon dont vous recevez ces informations. On dit les jeunes sont de plus en plus violents. Les jeunes. Est-ce que c'est tous les jeunes? Pourquoi? Comment, Chloé? Oui.
Alors moi, je pense que ça a à voir avec la technologie d'aujourd'hui. Parce que je pense pas que les jeunes en 2021, aujourd'hui, ils sont beaucoup plus violents qu'avant. C'est juste qu'aujourd'hui, on le sait, tout simplement, grâce aux réseaux sociaux, grâce à l'information qui vient beaucoup plus vite et de nature démesurée. Je sais très bien que dans les années 80, les jeunes aussi se tapaient dessus, il y en a qui mouraient, etc. Donc je pense qu'il y a une grande partie sur le fait qu'on ait énormément d'informations et que forcément, en ce moment, oui, il y a de la violence, mais il y en avait aussi avant, je pense, hein. Je ne sais pas si quelqu'un autour de cette table est d'accord avec moi.
C'est ça l'idée, c'est que si vous avez un autre sentiment par rapport à ça. Et ça, je sais que ça intéresse les auditeurs, ça, de savoir ce que vous pensez de cette question-là. Hein.
Ouais, je te rejoins sur le fait qu'il y a plus de communication maintenant. Donc la moindre chose, on va en entendre parler au moins un minimum. Mais il y a aussi, je pense, avec la crise sanitaire, il y a aussi le fait que tout ce qui est activité sportive et tout ça, c'est en arrêt. Et donc peut-être des choses qui étaient des défouloirs, pour certains, ne sont plus du coup, et donc malheureusement ils se retrouvent un peu à devoir caler du temps qu'ils n'avaient pas à caler avant, et donc malheureusement peut-être qu'ils sont plus tentés à faire, je sais pas, peut-être aller fumer ou je sais pas, peut-être que je stéréotype, mais voilà, je pense que oui, il y a peut-être quelque chose comme ça avec le fait qu'il y a des activités en moins, et donc il faut les occuper, les jeunes, et des fois malheureusement on choisit la facilité.
Léo, est-ce que toi, tu sens parmi les jeunes qui sont avec toi comme on l'a dit, en garantie jeune du côté de Fresnay-sur-Sarthe. Alors, il n'y a peut-être pas de la violence, mais une espèce d'aigreur ou de choses un peu rentrées qui fait que, ben, éventuellement, ça peut exploser dans des situations compliquées.
Alors moi, je transformerais un peu votre terme d'aigreur en frustration.
Oui.
Parce que du coup, comme on disait tout à l'heure, on a un peu une génération de sacrifiés. C'est le terme. Et du coup, ben, on est pas mal frustrés. Enfin, moi, je suis frustré, par exemple, parce que je fais de la musique. Et du coup, en fait, sur l'année où il y a eu le premier confinement, j'avais un groupe. Et puis du coup, il y a pas mal de concerts qu'on n'a pas pu faire. Donc forcément, ça prenait un peu au trip, quoi. Et je pense que c'est un peu ça. Ça fout la haine, en fait, je pense.
Mais alors, est-ce que ces causes-là sont suffisantes pour expliquer ces phénomènes de violence? Est-ce que vous-même, vous avez vu à un moment dans votre environnement des espèces d'exacerbation, je vais y arriver, de cette violence, ou pas, ou ça vous paraît un phénomène lié à un autre monde, Louise, par exemple?
Moi, au contraire, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de violence qu'avant, mais en contrepartie, elle est beaucoup plus médiatisée, donc on a la sensation qu'il y en a encore plus qu'avant, alors que, à mon avis, c'est vraiment le contraire. Que ça soit à cause de l'éducation, à l'époque, c'était vraiment, par exemple, il faut que tu sois un homme, il faut que tu te battes, il faut que tu renvoies le coup, ouais. Alors qu'aujourd'hui, l'éducation est différente, donc on va privilégier la parole, la discussion, on dit non, tu ne rends pas le coup. Mmh. Et voilà, mais c'est juste l'effet de, comme Chloé l'avait dit, l'effet des médias qui renvoie bien plus cette impression.
Ouais, oui, Pauline.
Oui, il y a l'effet des médias qui renvoie bien plus et qui aussi, du coup, extrapole un peu des fois. C'est-à-dire que des fois, une simple insulte, alors c'est déjà pas très bien en soi, mais une simple insulte peut être extrapolée avec les réseaux sociaux, peut être extrapolé énormément, et c'est là que ça va créer des bagarres entre clans, parce que au final il a peut-être dit juste une petite insulte entre guillemets qui a été transformée, et ça a fini en j'ai envie de te tuer toi et toute ta famille, quoi. Donc pour extrapoler
mais est-ce que vous, dans vos environnements, puisque vous êtes tous dans des quartiers ou des villes différentes, vous sentez qu'il existe ce phénomène de clan, ce phénomène de bande, ou est-ce que ça vous paraît très très loin? Voilà, est-ce que c'est réservé au 9-3, quoi? Voilà, en gros, pour donner vraiment de l'image d'Épinal d'entrée, quoi.
Moi, je dis que ça existe sur la plupart partie de la Terre, enfin sur toute la Terre, quoi. Il y en aura toujours des clans, des choses comme ça. Quelqu'un pour faire chier quelqu'un d'autre. Enfin,
on comprend fort bien.
Oui, voilà.
C'est clair.
Fallait s'exprimer et voilà.
Ouais. Donc toi, tu dis c'est effectivement un phénomène lié à l'homme, quoi. L'homme est malheureusement fait aussi pour être violent, quoi.
Ça existera toujours. On a toujours envie d'aller voir quelqu'un, de l'embêter, ou soit par une crise de jalousie ou.
Ouais.
Par rapport à son travail, des choses comme ça.
Ouais, alors c'est intéressant effectivement de montrer qu'il y a dans l'humanité tout un paquet d'aigreurs comme ça qui peuvent exister, de jalousie et qui peuvent conduire des fois à des violences absolument incroyables. Oui, Kadira.
Et pour ajouter, en fait, c'est dans le quartier, oui, il y en a. Par exemple, dans mon pays, moi, je sais qu'il y a des bandes, il y a des quartiers, ils se battent, mais pas dans une bagarre excessive où il peut y avoir des morts. Ici, le problème, moi, je pense, c'est les réseaux sociaux qui accentuent. Et derrière, il y a le challenge partout sur les TikTok où une personne doit prouver qu'elle a fait ceci, ou un autre jeune doit prouver à une autre équipe, à d'autres jeunes qu'il est capable de faire ça.
Alors, on a Orlando qui est à distance et qu'on n'a pas fait parler depuis un bon moment. Orlando, tu es toujours avec nous ?
Oui, toujours là.
Oui, Orlando, justement, donc on a évoqué ces questions d'identité de la jeunesse. C'est quoi la jeunesse? Est-ce qu'il y a une jeunesse ou plusieurs jeunesses? Et puis pourquoi la jeunesse aujourd'hui? Eh bien, on y associe de plus en plus dans les médias l'idée de violence. Comment tu vois ça, toi qui vis en fait sur Le Mans, hein, puisque tu es, comme tu disais, service civique à RCF Le Mans, oui.
Bah, par rapport à la violence au sein de la jeunesse, je ne pense pas que ce soit... forcément une réalité qui mérite autant d'attention comme on peut le voir récemment dans les médias. Il y a quand même un emballement médiatique autour des différentes histoires qui personnellement, je trouve assez... et pas très intéressant. Et voilà. Mais après, bon, certaines chaînes d'information continuent aussi qui en font leur choix. Mais après, oui, je pense qu'il y a plusieurs jeunesses. C'est pas un seul groupe, mais c'est une réalité qui englobe différentes couches sociales, différentes nationalités, différentes réalités. Et on est aussi une génération, comme vous le rappelez au début, sacrifiée, où c'est vrai qu'aujourd'hui on est un peu obligé de mettre nos liens sociaux au second plan.
Oui, et donc, Orlando vient nous faire un petit peu une synthèse sur cette question-là. Quelqu'un souhaitait intervenir ou je relance sur un autre aspect. Vous avez cité les réseaux sociaux. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté d'un échange sur les réseaux sociaux qui changent effectivement toute la vie et surtout à partir du moment où la jeunesse est très sollicitée et se les approprie aussi énormément. Mais la question que j'aurais à vous poser, elle est simple, c'est les réseaux sociaux, est-ce que c'est la meilleure des choses ou est-ce que c'est la pire des choses? Alors, Valentin, voilà, allez, Valentin au jeu de massacre.
alors je serais beaucoup plus nuancé, alors ça répond pas, mais c'est un peu le meilleur du pire et le pire du meilleur, c'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup de choses avec, on l'a vu, ça renforce le lien social, particulièrement avec justement la crise sanitaire et pendant le confinement, on a vu que par exemple, c'était le meilleur moyen pour dialoguer avec sa famille, avec ses amis, à distance. Donc ça, c'est un bon point. L'autre bon point aussi, c'est que ça permet à des personnes qui n'ont pas forcément la parole, qu'ils soient politiques, syndicats, etc., même associatifs d'ailleurs, de s'exprimer librement et de le pouvoir le faire. On l'a vu, il y a plein de personnalités politiques, par exemple, qui créent des comptes sur Twitch, etc., parce que justement, c'est un bon espace. Donc pour ça, c'est bien, ça permet de s'exprimer et tout. Après, c'est comme pour tout. C'est l'utilisation qu'on en fait et c'est l'excès de tout le temps, et c'est ça en fait le problème, c'est que dans ces réseaux sociaux sont accompagnés aussi les phénomènes de ce qu'on appelle revenge porn, donc c'est-à-dire publier des photos dénudées de son ou de sa partenaire pour se venger d'une séparation. Bon, ça par exemple, c'est évidemment le côté pervers du système. Mais je dirais que le problème, c'est pas les réseaux sociaux, c'est ceux qui les utilisent. Mais c'est comme pour les voitures. Les accidents de voiture, c'est pas à cause des voitures. Voilà, c'est à cause des gens qui conduisent. Donc, il y a une forme d'hygiène à avoir sur la route et sur les réseaux sociaux, par exemple. Et c'est à chacun de savoir quelle est la limite à ne pas franchir. Alors, il y a la limite de la loi. Mais voilà, chacun est responsable de ce qu'il publie, chacun est responsable de ce qu'il fait, et une fois qu'on le sait, ben, y a des conséquences, et c'est normal.
Tom, Louise, parmi les plus jeunes, votre sentiment, alors c'est Louise qui va s'emparer du micro le temps qu'il circule. Oui, Louise.
Je trouve que les réseaux sociaux, comme tu l'as dit, c'est très pratique. Par exemple, les groupes de classe, beaucoup de personnes doivent voir de quoi je veux parler. Ça va beaucoup plus rapidement ?
Non, absolument pas.
Ah. Et ben, par exemple, sur WhatsApp ou sur Snap ou même sur Instagram, on fait des groupes avec plein de personnes. Et en fait, c'est toute une classe. Ainsi, on peut se transférer les informations des professeurs beaucoup plus facilement. Il n'y en a pas qui n'ont pas eu l'information, qui ne sont pas exclus. Et c'est vraiment un outil très pratique. Et oui, comme on dit, c'est une hygiène à avoir de chaque personne. Et
une hygiène, ah, le mot est beau, oui. Une hygiène, oui.
Et c'est pas moi qui l'ai eu.
Oui, mais on l'apprécie.
Et une chose que je trouve très bien, c'est que dès le collège, on nous a fait intervenir des personnes pour nous sensibiliser par rapport à ces réseaux sociaux. Et les débuts des réseaux sociaux, il n'y avait pas, vu que ça venait d'apparaître. Et je trouve que c'est une très bonne chose, justement.
Alors, vos sentiments, Pauline, oui.
Oui, alors moi, je suis assez d'accord avec Valentin donc sur le fait qu'il y ait des bons et des mauvais points, tout ça. Mais je pense aussi que donc c'est d'abord aux gens de faire attention à ce qu'ils publient sur les réseaux, etc. Mais c'est aussi aux générateurs de réseaux de faire attention à ce qui est publié. Je pense notamment à Twitter, où on peut trouver vraiment de tout et n'importe quoi, et notamment de la haine. Sur Twitter, je crois que c'est un des réseaux où ça peut partir le plus vite en haine. Après, il y a des choses comme sur YouTube ou sur la nudité, des fois, ils vont être très, très crus. Genre, même un tableau d'art ne va pas passer, mais par contre, d'autres choses vont passer sans souci. Donc voilà, c'est à chacun de faire attention à quoi on publie, ce qu'on regarde aussi. Mais il y a aussi une petite part des supérieurs, on va dire, de faire attention à ce qui est publié.
On va aller vers Orlando parce qu'il ne peut pas lever la main ici dans le studio. Orlando, au Mans, là, à distance, oui. Les réseaux sociaux, le pire ou le meilleur, ça t'inspire quoi?
Ah ben, je vous rejoins tous sur ce que vous avez dit, mais après, c'est vrai que les réseaux sociaux ils nous offrent à tout le monde un moyen de communication extraordinaire. On peut communiquer avec des gens en Thaïlande, en Chine, peu importe. Mais aussi, d'un autre côté, il y a aussi beaucoup de haine qui sont déversées sur les réseaux sociaux assez facilement, sous le travers de l'anonymat. Mais après, oui, je pense aux plateformes et aux législateurs des gouvernements à mettre en place des lois pour mieux encadrer tout ça.
Est-ce que tu penses, Orlando, que si, par exemple, il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, Samuel Paty serait encore vivant?
Bah, il aura toujours le jeu des questions pour un champion.
Non, mais c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'à une époque, on part d'un mensonge d'une jeune fille. Le père, on passe sur les idées politiques du père, dites religieuses. On passe tout de suite au fait que des choses sont balancées sur Internet. Et c'est là que vient finalement l'idée à quelqu'un d'aller le tuer. Est-ce que finalement, ce n'est pas les réseaux sociaux qui l'ont tué, quoi?
Je sais plus, du coup je me suis planté, j'ai cru Samuel Etienne, pardon. Mais
Non, on veut pas de mal à Samuel Etienne. On adore Samuel Etienne. D'ailleurs, je vais en parler tout à l'heure de Samuel Etienne, justement.
Mais
Samuel Paty, voilà.
Oui, Samuel Paty. Je ne pense pas que ce soit les réseaux sociaux qu'il y ait eu cet acte terroriste. Mais ça pose aussi la question de la responsabilité des utilisateurs sur les plateformes. Puisque aujourd'hui on peut dire tout et n'importe quoi sans avoir de problème derrière. Donc je pense pas que les réseaux sociaux en tant que tels soient les responsables de ça, mais en tout cas ça pose une question éthique sur l'expression de la parole et notamment l'expression de la haine en ligne qui peut après mener à des actes terribles.
Oui, on rappellera que les réseaux sociaux ne sont pas des médias, ce sont des moyens de communication, mais pas des médias dans le sens où on l'entend en termes professionnels. Chloé voulait intervenir, oui.
Oui, donc moi je n'ai pas tellement changé de discours, hein. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Le réseau social en soi, c'est vraiment un outil formidable, et d'ailleurs la crise sanitaire nous l'a confirmé. Mais ce que je voulais remonter du coup, c'est par rapport à ce que tu as dit, Louise, donc moi j'ai 24 ans, j'ai grandi avec les réseaux sociaux et je n'ai pas eu cette chance que tu as eue ou que tu as encore certainement, c'est-à-dire d'avoir des interventions de professionnels pour nous encadrer avec les réseaux sociaux. Et je trouve que oui, il faut le souligner, c'est vraiment une chance énorme que la jeunesse qui arrive en fait, parce qu'on peut même souligner qu'il y a deux jeunesses en une jeunesse du coup, parce que par rapport aux réseaux sociaux. Donc oui, c'est une chance qu'aujourd'hui nos futurs adultes ont eu un encadrement concernant les réseaux sociaux et éviter tout ce qui est harcèlement, et etc. Quoi.
Pauline, vous voulez intervenir aussi, oui?
Oui, je pense que aussi une
oui,
bonne
ça,
chose...
Oui, c'est le micro, ça, c'est pas grave. Ouais. Hein, c'est pas un fantôme, c'est le micro.
Une des choses qui est très bonne et qui peut être aussi très mauvaise avec les réseaux sociaux, je pense peut-être à TikTok justement, ou Twitter encore une fois, c'est qu'on va nous montrer que des choses qu'on veut voir. Donc, si on veut voir que des choses positives, techniquement, on va avoir... relativement que des choses positives. Ça peut arriver qu'on ait des choses qu'on n'aime pas. Ça, sur Twitter, ça arrive souvent, mais par exemple, je pense à TikTok, si on like un certain nombre de choses, on n'aura que ça qui sera proposé. Donc, ce qui fait que des personnes qui sont peut-être un peu plus perverses, ou on a vu ça notamment aux États-Unis avec les pro-Trump, ils ne voient que des pro-Trump qui sont pour les armes, pour la suprématie blanche, etc. Et donc, c'est ce qui fait que les gens sont enrôlés, ils n'ont plus... On ne les confronte plus à leur avis critique. Et donc, c'est ce qui fait aussi les bonnes choses, puisqu'on peut voir que ce qu'on veut, et donc c'est très bien. Mais en même temps, si on n'est pas forcément très bien entouré, on va dire, on peut voir aussi que du mauvais, et là, c'est plus compliqué.
On va quitter ce terrain des réseaux sociaux, à moins que quelqu'un ait envie d'ajouter un point fondamentalement capital. Léo, vas-y Léo, oui.
Moi, je pense qu'on est tous d'accord, plus ou moins, pour dire qu'il y a toujours du mauvais dans du bon. Ou que ce soit les réseaux sociaux ou d'autres trucs, l'éducation, tout ça, bref. Mais moi, je trouve ça cool quand même, parce qu'au niveau des associations et des œuvres caritatives, c'est quand même quelque chose qui est vachement bien. Il n'y a pas souvent du négatif dans ces trucs-là, mais pour les personnes, par exemple, qui ont besoin de faire signer une pétition, bah c'est beaucoup plus facile que mettre ça dans l'Ouest France, par exemple, où vous allez avoir 20 voix, alors que là, il y a tout le pays de la France, Outre-mer, les pétitions qui peuvent être traduites, et du coup, les votes à l'international et tout, je trouve ça super cool. C'est vachement bien. Puis pour les dons, c'est trop bien, quoi.
Voilà, alors c'était Léo qui s'exprimait. Oui, Nicolas, vous voulez intervenir encore, oui.
Et pour finir, oui, bah, je suis aussi d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais c'est vrai que, bah, en fait, maintenant, la nouvelle jeunesse sait beaucoup mieux utiliser les réseaux sociaux et maintenant est capable, entre guillemets, de regarder plusieurs opinions et se forger son opinion personnelle plus facilement qu'avant. C'est vrai que la jeunesse qui est arrivée sur les réseaux sociaux au début, elle arrivait sans comprendre les dangers, sans comprendre les limites des réseaux sociaux. Et bon, il y a eu le souci de l'anonymat, effectivement, qui a fait que les gens ont laissé exploser leur haine et ça a déclenché forcément le même effet chez les autres. Et maintenant, avec la nouvelle jeunesse, ce problème, j'ai l'impression qu'il peut se ralentir. Mais les systèmes, du coup, comme tu parlais de certains réseaux sociaux, ont l'air d'aller dans le sens inverse. Donc je pense qu'il y a les deux côtés à percher. En fait, c'est maintenant peut-être que la jeunesse qui arrive à le gérer, mais que les systèmes des réseaux sociaux entrent en contradiction avec ça. Vas-y.
Alors justement, juste niveau jeunesse, tout dépend à quel âge on commence la jeunesse. Puisqu'on voit aussi de plus en plus de jeunes enfants arriver sur les réseaux sociaux. Et en fait, je pense que ce que tu disais, c'est plus la maturité, en fait, qui fait qu'on sait à peu près voir ce qui... Enfin, après, tout voir, tout regarder et juger après. Je pense que malheureusement, un enfant de 8 ans, il n'a peut-être pas cette capacité de savoir que ça, c'est bien et ça, il faut peut-être mieux éviter de le regarder.
Alors, ce que je vois, c'est que vous êtes plutôt d'accord sur l'idée que l'éducation aux médias est absolument importante partout à l'école. C'est ce qui fait la différence avec, comme tu as dit, l'ancienne jeunesse et la nouvelle jeunesse, si je peux me permettre.
Le terme était peut-être pas.
Non, mais on a bien compris. On a bien compris ce que ça voulait dire. Donc, les choses évoluent. C'est pris en charge par la société de plus en plus. Et ça, c'est capital. J'aimerais qu'on revienne sur Fréquencier, alors qu'il est exactement 15h23 actuellement en direct, avec une émission micro. Libre Parole Jeunesse dans le cadre du Carrefour des Engagés, de cette journée radio qui nous permet de parler du service civique. J'aimerais qu'on revienne un petit peu vers l'idée de l'engagement avec une question qui me paraît importante aussi, valable pour tous les citoyens, pas seulement pour vous, c'est de savoir qui peut agir pour faire bouger les choses. Vous savez, on râle toujours, ouais, le gouvernement ceci, le gouvernement cela, etc. Mais la question qui se pose au bout du compte, c'est comment est-ce qu'il faut faire pour aller vers un meilleur bien-être pour soi et les autres, et qui tient ça finalement, qui tient l'avenir dans ses mains? Est-ce que c'est, je ne sais pas, le gouvernement? Est-ce que c'est soi-même? Est-ce que c'est l'école? Est-ce que c'est l'engagement associatif? Et on y revient là dans l'engagement ou autre chose. Qui dirige tout ça? Qui a la main? Louise, visiblement, la veut, la main. Nous vous l'accordons.
J'ai un avis bien tranché sur la question. Je trouve qu'on,
ciel.
Je trouve qu'on rejette toujours la faute sur l'autre en disant oui, c'est le gouvernement, c'est les écoles, c'est les professeurs, et ils font pas assez. Mais avant tout, si nous, on se concentrait en faisant les choses bien, par exemple, si au lieu de dire que le gouvernement ne prend pas assez soin de l'environnement, nous-mêmes, on peut faire des choses, enfin, de notre côté. Au lieu de dire c'est la faute du gouvernement, de toute façon, à mon échelle, ça ne peut rien changer, eh bien si. Pareil pour le harcèlement scolaire, on ne va pas dire oui, c'est la faute de l'école, c'est la faute des professeurs, ils n'ont rien vu, c'est la faute des surveillants, c'est avant tout la faute des élèves. Et donc chaque personne doit, s'il ne harcèle pas, eh bien il n'y a pas de souci. Au lieu de rejeter la faute sur les autres, chaque personne peut faire des trucs.
Je crois que Tom voulait aussi répondre à cette question, oui. Tom, oui.
Pour moi, c'est tout le monde, c'est tous les êtres humains qui existent, qui dépendent que de ça, parce que c'est qu'en y pensant qu'on peut y arriver. Si on fait un effort, on peut y arriver. Et si on ne fait pas d'effort, c'est sûr qu'il y a moins de risques qu'on y arrive, donc ça dépend de tout le monde et pas que d'une école ou des choses comme ça.
Valentin ?
Alors je suis en partie d'accord avec ce que vous avez dit, et notamment avec ce qu'a dit Louise, mais pas totalement. Pour ce qui est du gouvernement, alors c'est vrai qu'on tape tout le temps dessus, mais c'est quand même des gens qui sont payés pour changer les choses, et qui sont bien payés pour changer les choses.
Enfin, non mais bon, pour changer, pour faire que les choses aillent bien.
Voilà, non mais oui, non mais pour que les choses aillent bien, non mais il faut le dire, c'est des gens qui sont payés pour ça, donc, et qui ont le pouvoir. C'est-à-dire que Sarah El Haïry, qui n'a pas pu être là, et secrétaire d'État chargée de la jeunesse, c'est elle qui peut changer les choses. Nous, on discute, on n'a pas de pouvoir, mis à part celui de s'exprimer, ce qui est déjà un très bon pouvoir par rapport à d'autres pays. Mais Je pense vraiment que le ministre de l'Éducation a le pouvoir pour régler les problèmes dont tu parlais sur le bac. Je pense que la secrétaire d'État et la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, a le pouvoir de changer les choses dans les universités. Voilà, donc c'est des gens qui sont payés pour ça et qui ont le pouvoir et qui ne font peut-être pas assez.
Ça, c'est dit. Chacun son point de vue. Est-ce que quelqu'un a un point de vue différent ? Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de finir avec une question. Il nous reste à peu près 3 à 4 minutes et je vais demander à chacun d'y répondre. On est sur l'engagement. L'engagement associatif, l'engagement dans le cadre du service civique. On dit, on veut être présent, on veut pouvoir faire quelque chose, on veut pouvoir être entendu, on veut être reconnu dans notre existence comme jeune. Et ma question est très simple. Et pourquoi pas le vote à 16 ans ? Quel est votre point de vue là-dessus ? Tom, tu voterais si tu...
Pour moi, on ne voterait pas à 16 ans, parce qu'on serait trop immature. On serait trop immature, on ne comprendrait rien dans la vie politique et des choses qu'ils veulent organiser.
Donc tu dis, ouais. Nicolas ?
De la même manière, je pense qu'on n'aurait pas atteint assez de divergences d'opinion pour avoir sa propre opinion sur le sujet. On serait encore dans l'opinion familiale. Et on n'aura pas réussi à chercher en fait plus loin que ça.
Louise ?
Ah non, moi je voterai. même une fois à l'âge adulte, ça a été prouvé qu'on a à 70% la même opinion que nos parents. Donc au final, ça ne change pas grand-chose, mais on peut toujours se construire. Et à 16 ans, on voit justement des difficultés, des choses qui ne vont pas et auxquelles on peut agir par notre vote que des personnes majeures ont.
Louise veut sa carte d'électeur. Léo.
Moi, je pense que pareil, je ne sais pas si c'est Louise qui disait ça, mais du coup, on a souvent le même avis que les parents au niveau politique. Mais je pense que ce ne serait pas une bonne chose, parce que du coup, on n'a pas assez de recul, on ne comprend pas assez de connaissances personnelles sur le sujet, sur les différents partis politiques et tout, par exemple. Par exemple, le parti, le Front Nationaliste, je crois, c'est ça ?
National.
Le Front National, on l'associe souvent juste au racisme. Par exemple, quand on a 16 ans ou des trucs comme ça, on se dit « Ah, le FN, c'est raciste ». Alors qu'il y a d'autres trucs derrière, même si moi, je m'y connais pas assez, par exemple. J'ai 18 ans, mais même moi, je m'y connais pas assez, quoi.
Orlando, du côté du Mans, à RCF, cette histoire, s'engager, voter à 16 ans, qu'est-ce que tu en penses ?
Pourquoi pas, si ça peut permettre aux hommes et aux femmes politiques d'un peu plus s'intéresser à la jeunesse, banco. Mais je sais pas, il y a du pour et du contre.
Alors c'est sûr qu'ils s'intéresseraient davantage à la jeunesse parce que ça commencerait à peser aussi dans les résultats. C'est effectivement une dimension auquel on ne pensait pas et que tu as bien raison d'apporter, Orlando. Valentin ?
Moi je dirais oui, et je dirais même un peu plus loin, je pense qu'ils sont beaucoup plus légitimes que par exemple des personnes qui ont 90 ans. Pourquoi je dis ça ?
Ça va faire plaisir à nos auditeurs de 90 ans.
Non mais pourquoi je dis ça ? C'est important, c'est parce qu'à 16 ans, on a devant nous toutes les problématiques politiques et les choix qui sont faits nous impacteront. Donc à 90 ans, on a fait sa vie dans le sens où voilà, c'est fait, mais à 16 ans, tout est à faire.
Kadira ? Bien près du micro, oui.
Moi, j'allais dire non, au contraire. À 16 ans, on est encore jeune et une personne de 90 ans est beaucoup plus légitime par rapport à un enfant de 16 ans qui ne va peut-être pas avoir autant de critiques sur la vie politique. À 16 ans, on est encore trop jeune et on suit des séries. Alors qu'une personne de 90 ans, elle peut faire valoir des droits, des lois, autre chose. Elle a vécu beaucoup de choses.
Alors moi je suis mi pour mi contre parce qu'en fait je pense pas qu'il y ait une question de maturité et tout ça à 16 ans qui soit vraiment différente, puisque personnellement moi vous voyez à 22 ans je m'intéresse pas du tout à la vie politique, enfin je sais, j'ai l'impression que voter ne sert à rien, donc je me dis que à 16 ans il y aurait pas vraiment un avis différent et on voit surtout aussi des personnes qui même à 35 ans ne se posent pas la question vraiment de
donc si j'ai bien compris
voter.
Pour ou contre?
Moi plutôt pour, parce qu'il y a pas de raison que
entre les deux mon cœur balance. mais attention, le doute est quand même une valeur fondamentale dans la vie de tous les jours. Et évacuez les certitudes, mettez toujours les choses en question. Chloé ?
Alors, la politique, c'est un sujet assez complexe. Mais si le mois de saison avait voté,
Ouh là là. Donc, je pense que c'est une question de maturité, c'est une question d'expérience, une question d'opinion qui se forge au fur et à mesure des années, finalement. Donc, pour moi, c'est un non.
Eh bien, moi, je vais faire aujourd'hui quelque chose qu'on n'en fait pas normalement quand on est animateur de débat, intervieweur. Je vais vous donner mon sentiment. Moi, j'ai plus de 60 ans hein, et je suis totalement et absolument pour le vote à 16 ans pour rééquilibrer le corps électoral. Voilà, et c'est finalement, quand on vote pour l'avenir, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, les anciens votent pour l'avenir des autres, et ce serait bien que finalement tout le monde puisse s'exprimer en descendant ça. Mais je connais parfaitement les réticences qu'il y a chez les jeunes, que vous avez d'ailleurs formulées ici, et qui sont en plus très bien exprimées hein, sur le fait qu'on doit y réfléchir. Bon, on doit y réfléchir. Après, les gouvernements doivent aussi y réfléchir. Et nous, on va aussi réfléchir à autre chose. C'est qu'il est 15h32 et que tout à l'heure, on va me faire des gros yeux du côté de la régie pour me dire « Dis donc, t'as un peu dépassé le temps. » Oui, j'ai dépassé le temps. C'est vrai. Hein, et c'est donc là-dessus qu'on va terminer cette émission en remerciant alors Tom, Louise, Léo, Pauline, Valentin, Chloé, Pauline... Non, Pauline, tiens, je l'ai mis deux fois. Ah, bah, tu vois. Alors, il n'était pas au premier tour.
Je ne veux plus oublier.
Deux fois, la deuxième. Kadira, Nicolas et Orlando au téléphone. Merci de votre participation.